Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
Steve Fortin est avec nous pour faire une petite revue de l'actualité, notamment politique. Bonjour Steve.
Oui, salut, comment ça va?
Ça va très bien. Écoute, l'Assemblée nationale a voté une motion, elle a été votée à l'unanimité, qui dit grosso modo que le Québec n'est pas plus raciste qu'ailleurs, puis il y a certaines personnes qui sont pas d'accord avec ça.
Ben oui, on dit l'unanimité, mais j'ai remarqué sur le compte Twitter d'Alexandre Brassard, qui est conseiller politique au cabinet de la ministre du Tourisme, il disait que lors du vote de cette motion-là, tiens, étrangement, le député de Québec solidaire de Maurice Richard, Arun Boisy, il n'était pas là. Donc, il était absent quand on a voté ça, fait qu'unanimité de ceux qui étaient là. Mais oui, en gros, mercredi, donc, à l'initiative du ministre Roberge, on a voté cette motion-là, et puis c'est pas étranger, là, comme on le disait dans un texte du Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est pas étranger à la sortie d'un organisme canadien uni contre la haine disait que le Québec, c'est l'épicentre de l'islamophobie. Puis on va se le dire, là, de toute façon, le simple fait de mentionner cette motion-là dans certains journaux, notamment des journaux anglophones, je pense aux Gazettes, par exemple, leurs réseaux sociaux ont été inondés de commentaires qui étaient tous les plus répugnants les uns que les autres. Puis il me semble que quand on regarde les indicateurs, plusieurs indicateurs le montrent. Et puis c'est pas une façon pour le Québec, de toute façon, de dire on se tape pas des mains là, en disant on est moins ou plus. C'est un simple fait, c'est de le rappeler, parce qu'on a parfois l'impression très désagréable que justement il y a une petite frange de gens très militants qui aimeraient essayer d'imposer ce narratif-là, comme quoi justement le Québec c'est l'épicentre là, de racisme, d'islamophobie, de tout ce qu'on voudra, de toutes les phobies du monde, alors que dans le fond le Québec par rapport au Canada par exemple, c'est certain que il y a quelques dossiers par rapport auxquels il est en contradiction avec le Canada, notamment quand on parle de dossiers identitaires ou d'adhésion au pôle multiculturalisme, par exemple, ou sur les questions de religion. Mais tu sais, c'est ça. Puis je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose aussi que Québec solidaire, le Parti libéral, qui sont tous les deux opposés à la loi 21 farouchement, ils ont dit aussi, c'est pas vrai que c'est plus raciste au Québec qu'ailleurs. Puis pour moi, ça, c'était salutaire quand même de le mentionner.
Le Québec n'est pas raciste comme nation, comme peuple, comme province. Est-ce qu'on peut dire, par contre, qu'il existe, il y a du racisme, comme partout ailleurs? Est-ce qu'on peut reconnaître l'existence du racisme et se donner les moyens de lutter contre le racisme?
On peut, tout le monde, je pense pas qu'il y ait personne au Québec qui ne reconnaît pas l'existence du racisme. Cependant, si on veut parler de systémique dans le racisme et de cette notion-là qui procède d'un abordage idéologique, à tout le moins, en tout cas, il y a une idéologie, puis il y a certainement un fondement idéologique à ça. Et je me souviens, quand il était arrivé l'histoire de Joël Séchaquan, j'avais publié dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, un texte où je parlais justement du racisme systémique, et je disais, là, je paraphrase, si une telle chose existe, on en a là une manifestation. Puis j'avais aussi parlé des travaux, j'y vais de mémoire, là, mais de... Là, il y avait le médecin volant là, qui à un moment donné était venu, puis il avait parlé de la réalité, des communautés autochtones versus le système.
Mais toi, penses-tu que ça existe, Steve? Le racisme systémique?
Moi, quand je l'avais écrit, je te mens pas, là, tout le monde, les gens savent, là, quand on chronique dans le journal, les gens savent, moi je suis pro-loi 21, puis tout de suite, là, j'avais été complètement submergé. Parfait, si t'es prêt à accepter que le racisme systémique existe, là maintenant, il faut défaire la loi 21, parce que ça, c'est du racisme systémique et tout ça. Le gouvernement, s'il se met le bras dans cet engrenage militant-là, c'est terminé. On va lui dire, maintenant, il faut défendre la loi 21, il faut défendre la loi 96, parce que c'est du racisme.
Mais non, mais si on est, tu sais, pour moi là, le racisme ou la langue française ou tous les sujets disons plus identitaires sont plus importants que juste les lois qui y font référence là. Tu sais, le principe de laïcité, le devoir de protéger la langue française, c'est plus fort que la loi 96 et plus fort que la loi 21. Tu sais, dans ce sens-là,
oui.
c'est important.
Oui, t'as raison, Yacine, mais l'affaire qui arrive là-dedans, c'est qu'on n'est jamais bien loin, puis d'un côté comme de l'autre, là, on n'est jamais bien loin d'un militantisme qui, lui, fait et défait des gouvernements, puis fait et défait, si on veut, le vent qui est en poupe pour les partis politiques. Je veux dire, tu sais, faut quand même pas oublier que d'aussi longtemps qu'on se souvienne, à un moment donné, quand Mario Dumont était à la tête de la DQ, ben, je veux dire, le dossier identitaire le servait bien, le Parti québécois le fait, le Parti libéral le fait. Les dossiers identitaires, ça fait partie de notre paysage politique, des fondements de notre politique, la façon qu'on le... Il n'y a pas que ça, mais c'est important. Donc, quand on considère ça, il faut faire attention avec les comment on va aborder un dossier comme celui-là. Moi, je préfère des gens qui, par exemple, à l'intérieur de la communauté autochtone, et j'en connais, qui plutôt que de dire, ben, je peux pas perdre mon temps à essayer de faire absolument reconnaître par le gouvernement c'est quoi le racisme systémique. Ben, dans la région de la Naudière, plutôt, ben, on a créé un centre d'amitié autochtone. Ça faisait longtemps qu'on le voulait. Ça faisait longtemps que les gens de Manouane, par exemple, se disaient, mais ça n'a pas de bon sens, le lien qu'on a avec le CLSC, puis ensuite avec l'hôpital. Tu sais, puis on a travaillé là-dessus, puis on a dit, ben voilà, la sécurisation culturelle, ben c'est important. Puis on va faire avancer des principes comme ça, puis on va pas attendre que ce soit reconnu par le gouvernement. On va y aller, puis on va travailler sur le racisme lui-même. C'est la même chose sur la Côte-Nord. C'est la même chose aussi en Outaouais, par exemple, au lac Barrière ou à Rapid Lake et tout ça. Là.
Alors, comment faire pour lutter contre le racisme? Tu sais, je te le dis, là, Steve, là, puis pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu un message, puis je l'ai d'ailleurs posté sur Facebook, de quelqu'un. Moi, au deux, trois jours, il y a quelqu'un qui me demande de retourner chez nous dans mon pays.
Ben, il t'a jamais entendu, puis c'est quelqu'un qui...
Non, mais il m'a vu à Ajoute, puis il m'a dit... « Hey, je t'ai vu à Ajoute, là, si t'es pas contente, retourne dans ton pays. » On fait quoi avec ces personnes-là? Ça, c'est-tu du racisme, de la xénophobie, de l'ignorance, on fait quoi avec ce monde-là? Ça existe-tu, ça existe-tu pas?
On le dénonce, on continue à le dénoncer, puis il y aura toujours des intolérants. On ne va pas être capable de d'éliminer complètement l'intolérance. Puis je l'ai vécu dans le sport en Outaouais, je l'ai vécu sur la fracture linguistique, bien entendu, ayant été élevé en Outaouais. Mais ce qu'il faut, par contre, c'est rendre certains comportements complètement hors de la norme sociale, tellement qu'à un moment donné, on ne le fait plus. Puis, c'est drôle parce qu'on a parlé de ça ensemble avec Marie, et toi et moi. On a parlé de ça, par exemple, au hockey. Il fut un temps où c'était, il n'y avait aucun problème, tu te promenais sur la glace, puis il y a un des premiers noirs dans la Légion majeure du Québec, qui s'appelait Réginald Savage. Puis, je veux dire, lui, là, il a passé à travers tout ça. Puis quand on a commencé à parler de ce dossier-là, par exemple, on a dit, ben là, c'est terminé, puis on va suspendre les joueurs qui font ça, puis les arbitres vont le faire, et tout ça, ils ont rappelé Réginald Savage, puis je me souviens, il avait même été à TVA Sport, puis je veux dire, là, à un moment donné, ça devient complètement en dehors de la norme sociale, on peut plus le faire. Mais on va faire comme ça avec le racisme, on va faire comme ça dans nos relations avec, par exemple, certaines des minorités, ben toutes les minorités qui sont ici, mais certaines minorités qui vivent s'il y a telle chose que le systémique dans le racisme existe, comme justement les nations autochtones. Puis ça va devenir tellement hors de la norme sociale qu'à un moment donné, ben on va avoir réagi sur ce front-là. On va pas éliminer le racisme, mais on va certainement, en tout cas, le rendre tellement répugnant qu'à un moment donné, ben il va être si hors de la norme sociale que ceux qui vont les racistes, en fait, ceux qui vont le pratiquer, ben ils vont être un peu comme mis au rencard par eux-mêmes, par leur comportement qui est hors norme.
Qui vont s'exclure finalement de la norme de sociétale.
J'espère. Puis c'est déjà commencé. C'est commencé dans la fonction publique. C'est commencé dans plusieurs de nos organismes qui, à un moment donné, se sont rendus compte que, effectivement, que c'est bon, ça existait déjà avec quand on a décidé qu'on voulait avoir une parité. Puis c'était la moindre des choses, je veux dire, avec les femmes. Mais ensuite, on l'a développé avec les minorités aussi. C'était pas normal, par exemple, que la force policière à Montréal soit composée de tel pourcentage de gens blancs. Puis, je veux dire, la métropole, ben elle se diversifiait, mais le corps de police, lui, qui est supposé d'être là pour servir les gens, c'est dans leur mission, ben lui, ne se diversifiait jamais. Mais tu sais, là, maintenant, ça, c'est hors norme. Oh, c'est puis une chance que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on avance.
Heureusement. Sinon, parlons d'un autre sujet qui nous tient très occupés, celui de la fonderie Horn. Et le gouvernement a décidé, a annoncé hier qu'il resserrait la vis, mais pas trop, à ce géant milliardaire qui est Glencore. On va créer une zone tampon qu'on va verdir. On va déplacer 200 familles, 80 bâtiments. mais ça ouais. va pas être obligatoire. Une partie va être payée par le gouvernement. Est-ce que tu comprends quelque chose, Steve?
Ah, écoute, le ministre Lacombe qui dit on va forcer personne de parce que c'est lui, c'est cette région-là, et c'est lui qui s'en occupe, hein, il est le ministre responsable de cette région-là. Non, on va forcer personne. Puis ensuite, la ministre de la Forêt qui dit, ben, non, mais à un moment donné, il va falloir que les gens, ça prendra peut-être 3, 4, 5 ans, mais les gens vont devoir partir. On souffle le chaud et le froid. Dans le reportage, il y avait un reportage justement là que j'ai pris à LCN où on voyait une des dames qui habite là-bas qui disait ben nous on tu sais ça avait jamais été dans les cartons. Manifestement là cette dame là avait fait partie des comités de citoyens, s'informer tout ça, puis on lui disait non c'est pas dans les plans, puis on apprend dans les médias que finalement ben voyez-vous pas ça arrive. Puis quand on regarde là, la photo avec le quadrilatère de maison, la fonderie Horn, puis en dessous, le quadrilatère de maison. Puis on dit, ben ces maisons-là vont être déplacées. Si moi, je suis propriétaire d'une des maisons sur la ligne, là, celle qui touche...
La première, là.
Arrière, c'est ouais, ça. La première, tu te dis, mais OK, eux partent, ben moi, je pars pas. Puis, je veux dire, on parle ici de mesures par million dans l'air, puis mon voisin, là, sa piscine, elle touche la mienne. Mais lui, faut qu'il parte, mais moi, je pars pas. Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne pas. Puis on a toujours l'impression que dans ce gouvernement-là, ce sont les intérêts des gens, j'imagine, qui lobbyent le gouvernement pour la fonderie Horn qui prime avant ceux de la population, parce qu'on protège toujours d'abord et avant tout le droit de polluer de cette multinationale-là. Puis on devrait pas verser un sou pour ça. Là, je veux dire, c'est plusieurs fois milliardaire. On devrait pas verser un sou pour ça. Puis sont ils opèrent, ben OK, mais je veux dire, jusqu'à un certain point, moi, j'en peux plus là de ça. Il faut que la santé publique prime avant tout, puis certainement avant les intérêts là, pécuniers, financiers des investisseurs puis de cette compagnie-là.
Mais Steve, imagine que le gouvernement va même verser de l'argent à la ville pour que celle-ci puisse décontaminer le terrain. Hey, c'est ben, Québec qui paye pour la décontamination du terrain de la fonderie Horn qui est milliardaire.
C'est le secteur minier, c'est plate, hein, mais tu sais, j'imagine que c'est pas 100% là. Il y a toujours des zones de nuance, mais tabarnouche. Tu sais, dans le Grand Nord, à un moment donné, on voyait ça, là, les sites qui sont là, c'est abandonné, c'est laissé dans un état pitoyable. C'est pas juste au Québec, soit dit en passant. Puis, je veux dire, à un moment donné, il faudrait que cette responsabilité-là, qu'il y ait comme une espèce de responsabilité sociale de ces entreprises-là, puis qu'on se dise, ben OK, là, vous opérez, vous faites des profits faramineux, ben le moindre que vous puissiez faire, c'est bien ça, c'est bien de décontaminer, puis de, tu sais, je veux dire, c'est là. Il me semble que ça devrait venir avec. T'opères pas si tu respectes pas ça. Mais, tu sais, on voit, là, ils vont respecter la norme avant 2027. S'ils respectent pas, comment ça se fait qu'on suspend pas tout simplement l'endroit? Ben, on va dire, oui, il y a des gens qui travaillent, c'est leur gagne-pain, ça ferait une crise économique régionale, je veux bien, mais c'est comme s'il n'y avait pas de dents là-dedans. C'est comme s'il n'y avait jamais de moyens assez coercitifs pour dire, ben, cette compagnie-là va nous prendre au sérieux, puis on va changer les façons de faire. C'est tout. On va les changer. On n'a pas le choix.
C'est assez particulier comme dossier. Puis André Laforêt nous a habitués à être beaucoup plus rigoureuse dans les dossiers qu'elle tient, les dossiers qu'elle mène. La ministre des Affaires municipales n'avait pas l'air très solide hier en point de presse et les explications étaient un peu particulières. On comprend pas pourquoi on fait preuve d'un aussi grand laxisme, d'une aussi grande mollesse avec le géant Glencore.
Ce matin, moi, je salue le point de presse. C'est sûr qu'on n'a pas entendu beaucoup parler, mais à l'Assemblée nationale, Alejandra Zanger-Venguez de Québec solidaire, donc elle a parlé de ce dossier-là ce matin avec aplomb. Puis elle a justement pointé vers certaines des incohérences manifestes là-dedans. Puis ben tant mieux. Puis il faudra que les parlementaires continuent à talonner le gouvernement là-dessus. Là. C'est absolument essentiel.
Finalement, parlons de cette éminente didacticienne qui appelle à avoir plus de mesures pour protéger notre langue.
Oui, donc Mme Chartrand, qui depuis longtemps, donc. Étudie ça et c'est une référence par rapport justement aux questions linguistiques. Puis pourquoi je veux qu'on parle de ça, c'est que quand une personne comme ça, quand un universitaire ou un universitaire de renom, là, tu sais, qui a une crédibilité, établie dans un domaine, se prononce sur un sujet, je trouve que c'est important. Et dans ce cas-ci, ben, tu sais, je fais un petit peu de millage, si on veut, là. Je fais du pouce sur le fait que quelques heures, là, parce que deux jours après le lancement de la publicité du gouvernement, ben là, la poussière retombe, puis tout à coup, ben, il y a des voix pour s'élever puis dire, bon, OK, peut-être que ça ratait. C'est vrai que c'était, je vais utiliser un mot que ma fille utilise beaucoup, c'était cringe. Mais tu sais, dans les faits, là, je veux dire, on vise quand même là-dedans. Il y a quelque chose qu'il faut souligner. Puis s'il y a une part probablement assez, plus importante qu'on pense des jeunes justement de la génération de ma fille, puis un petit peu plus vieux qui utilisent ça, mais qui maîtrisent très bien l'en français. N'oublions jamais que le Québec, à titre de nation, a vraiment un problème pandémique. Et quand Mme Chartrand se prononce, puis nous rappelle justement certains des fondements théoriques de ça, puis qui nous expose littéralement que c'est effectivement le cas, puis qu'il faut des mesures plus fortes, notamment justement dans nos écoles secondaires, puis jusqu'au cégep et même à l'université, ben il faut le faire.
Évidemment.
Moi, j'ai arrêté d'enseigner à l'UQO à l'Université du Québec en Ottawa en 2018, puis les cours, j'étais au département des études langagières, puis les cours de rattrapage en français, je veux dire, c'était la norme. Puis c'est pas normal qu'on soit en train de faire des participes passés à la deuxième année d'université à des futurs profs qui sont au département d'éducation puis qui échouent les uns après les autres les différentes incarnations du PESTECFE ou je veux dire c'est pas normal ça. Puis pourtant ben c'est ça qu'on vit puis il va falloir s'y attaquer.
Steve Fortin, merci beaucoup, bonne fin de semaine.
Ben à toi aussi, on se parle lundi.
Au revoir.